Bien avec Hélène Denis.
C'est la chronique économie avec Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Passez un beau congé de Pâques.
Ben oui, même si le printemps tarde à venir nous réchauffer.
Oui, 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 mais ça s'en vient. Là. Je regardais Environnement Canada, là, puis il y a du soleil et de la chaleur là, pour les prochains jours. Pas aujourd'hui, mais à partir de mercredi, jeudi, là, ça va commencer à se réchauffer. Alors, il y a de l'espoir.
C'est ça.
Michel, on vous a vu à la télévision, là, sur les ondes de Radio-Canada récemment, à propos de la SAC qui annonçait qu'elle aurait des espaces de vente dans les chaînes Maxi et Costco. On veut en savoir davantage.
Oui, mais la SAQ déjà était présente dans certains commerces comme IGA et Couche-Tard, puis là, sous la forme de ce qu'on appelait des mini-agences. Alors, elle va en ouvrir d'autres maintenant dans les Maxi. Et au moins un Costco pour le moment, là, celui sur la rue Bridge, là, qui est dans le sud de Montréal. Donc, que fait la SAQ avec ça? Ben, elle va étendre son réseau de distribution, puis non seulement dans plus d'endroits qu'avant que juste les succursales de la SAQ, mais ça va lui permettre aussi de rendre les vins disponibles à de plus grandes périodes de temps, parce que souvent les épiceries ou les Costco sont ouverts plus longtemps que les magasins traditionnels de la SAQ. Donc, avant, on retrouvait des vins dans les épiceries et dépanneurs, mais on ne pouvait pas distribuer n'importe quel vin dans les épiceries et dépanneurs. C'était seulement des vins qui étaient importés en vrac au Québec et mis en bouteille ici. Maintenant, avec ces mini-agences, il va pouvoir avoir des vins qui sont embouteillés en Italie, en France ou en Australie. On va pouvoir les retrouver ailleurs que dans les succursales de la SAQ. Donc, les vins vont être beaucoup plus disponibles pour les consommateurs.
J'imagine que cette décision-là ne fait pas l'unanimité.
Ben non. Il y a différents groupes qui voient pas ça nécessairement d'un bon œil. Premièrement, il y a les micro-distilleries locales, là, québécoises. Elles se disent, les gens vont aller moins à la SAQ parce que les vins vont être plus facilement disponibles quand on fait notre épicerie ou on va au Costco. Et puis, elles ont peur qu'il y ait moins de produits québécois là, au Maxi puis dans les Costco. Donc, les consommateurs seraient moins exposés là, à nos produits locaux. Donc, ça, c'est un premier groupe. Il y a la santé publique qui intervient puis qui dit, plus l'alcool est disponible, moins c'est bon pour la santé. Mais là, en même temps, je pense que on pourrait en reparler, mais ça, c'est un autre débat. Là. Au niveau de la santé publique, il faut décider est-ce qu'on veut vendre ou pas de l'alcool. Puis si on veut le vendre, qu'on en vende. Puis si on veut la réglementer, c'est pas nécessairement en limitant le nombre de succursales. Là. L'exemple que je donne souvent, c'est la cigarette. La cigarette est vendue par le secteur privé. On jugeait que c'était pas bon pour la santé. On a imposé des taxes importantes. On a réglementé la publicité. On a donné de l'information sur la nocivité de fumer. Et puis avec ça, la consommation baissait beaucoup. Alors, je pense que les arguments de santé publique, là, j'ai l'impression qu'on mélange, ça ne devrait pas s'appliquer ici au réseau de distribution de la SAQ. Si vraiment on veut faire un débat sur les problèmes de santé dus à l'alcool, qu'on le fasse, mais là, qu'on trouve les bons moyens pour intervenir si on veut vraiment limiter la consommation.
La question de la privatisation de la SAQ refait souvent surface aussi.
Oui, c'est ça. On pourrait se demander pourquoi c'est l'État qui vend l'alcool. Il y a un paquet de produits qu'on achète, puis c'est le marché, le secteur privé, la concurrence qui régit la vente. Pourquoi c'est l'État? J'ai fait des petites recherches. En fait, ce sont des raisons historiques. Suite à la prohibition, là, au début du 20e siècle, en 1921, on a décidé de vendre vendre l'alcool sous monopole d'État. Donc, c'était la commission des liqueurs, la CLQ à l'époque. Puis c'était pour contrôler la qualité. Il y avait un marché noir important avant. Et puis, il y avait des alcools frelatés faits dans les sous-sols et tout. Puis la qualité était très variable. Alors, on voulait contrôler la qualité. Puis, c'est assez intéressant de voir que le premier employé embauché a été un chimiste pour assurer la qualité des produits. Alors, vous montrer. Donc, on voulait enrayer le marché noir, encadrer la vente de l'alcool. Puis à l'époque, l'alcool n'était pas aussi accepté que maintenant. Là, les magasins de la fameuse CLQ à l'époque, ça n'avait rien de comparable avec ce qu'on avait aujourd'hui. Là. On avait un grillage qui séparait les employés des clients, puis les gens ne voyaient même pas les produits. Puis pour la petite histoire, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans un magasin de la SAQ sur la rue Sherbrooke, dans l'Ouest.
Ça s'appelait la SAQ dans le temps?
C'était la SAQ, oui. Je pense que la SAQ est venue au milieu des années, au début des années 70. Avant, c'était la Régie des alcools, après la CLQ. Donc, c'est les débuts de la SAQ. Puis ce magasin-là est un peu une relique. Là. Les gens venaient au comptoir, puis nous, les employés, on était derrière le comptoir, puis toutes les bouteilles étaient également derrière le comptoir. Donc, les clients nous demandaient ce qu'on voulait. On allait en arrière chercher les bouteilles, on les apportait. Et même la caisse était du côté des employés. Là. Les gens nous donnaient l'argent, puis c'est nous qui allions à la caisse pour eux. C'est assez... On est loin de là. Là. Ça a beaucoup changé. Maintenant, l'alcool est plus accepté socialement.
Ouais. C'est un service semblable à la SQDC, je pense.
Ben, exactement. Là. Puis on pourrait faire un débat. Là. Moi, je pensais qu'avec la SQDC, on apprendrait de ce que moi, je qualifie maintenant d'une erreur. Je pense que la SAQ devait être privatisée. Puis j'espérais que la SQDC soit privatisée, mais on a pris le même modèle là, de monopole d'État, puis effectivement, là, en cachant un peu les produits. Là. Je pense que la privatisation, ça nous amènerait beaucoup plus de concurrence, plus de choix pour le consommateur, puis possiblement à des coûts de distribution plus faibles.
Oui, mais la SAQ rapporte beaucoup au gouvernement.
Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un argument qu'on avance souvent. On dit « Ah oui, mais si on privatise, on va avoir moins ». Ce n'est pas nécessairement vrai. Là. D'abord, la vente d'alcool baisse et puis là, les revenus baissent aussi. Là. Statistique Canada nous disait que les ventes avaient reculé de 3% au pays de mars 24 à mars 25. L'alcool est moins populaire. Mais il y a quand même un dividende pour le gouvernement. Puis ce dividende-là, ben quoi, on peut le voir comme une marge bénéficiaire par chaque bouteille vendue. Là. C'est ce qui donne le profit de la SAQ, puis le dividende qui est versé au gouvernement de la SAQ. On a juste à taxer, si on avait le secteur privé, on aurait juste à taxer du même montant de cette marge bénéficiaire-là, puis le gouvernement ferait autant d'argent. Donc, pour faire de l'argent sur un produit pour le gouvernement, récolter un dividende, il y a juste à le taxer. Il n'y a pas besoin d'avoir de prix, de socialiser ou de créer un monopole d'État pour ça. Là. Puis encore une fois, je pense que le marché a certaines vertus, la concurrence, pour offrir ce que les gens veulent à moindre coût. Là. Ailleurs, on fait place au marché. Là. Ce qui est intéressant cette semaine, là, pour ceux qui sont intéressés, il y a une série d'articles dans la presse où on compare le modèle de la SAQ avec ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes. Hier, on parlait de l'Ontario, puis aujourd'hui de l'Alberta. En Ontario, le gouvernement Ford... a réduit le monopole de la LCBO, la Liquor Commission Board of Ontario, donc en permettant la vente de plusieurs produits là, dans les magasins spécialisés ou les dépanneurs, notamment la bière, le vin, le cidre, les prêts à boire. Par contre, la société d'État va garder son monopole pour l'alcool distillé, comme les rhums, les vodkas, les whisky. L'article de la presse compare certains prix, puis on se rend compte que les prix sont légèrement plus faibles en Ontario qu'au Québec pour les produits cités. Puis un exemple peut-être qui est plus dramatique, là, c'est le champagne la Veuve Clicquot. Bon, on n'en voit pas tous les jours, mais il se retrouve dans les Costco en Ontario à 70 $ la bouteille, ce qui est à peu près 20 $ de moins que ce qu'on retrouve à la SAQ au Québec.
Là. Difficile de faire mieux en termes de prix, là.
Exactement. Puis en Alberta, le modèle est beaucoup plus, en guillemets, dramatique, là, ou plus vers la privatisation. En 93, donc ça fait longtemps, là, ça fait plus de 30 ans, on a décidé de mettre fin au monopole d'État et de privatiser toute vente d'alcool. Donc, c'est les vins, les bières, mais également ce qu'on appelle les spiritueux ou les alcools distillés. Et puis c'est vendu un peu partout. Il y a des entrepreneurs. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'article, on cite une entrepreneur du Québec, là, Nathalie Gosselin, qui s'est installée en Ontario, puis elle dit, le modèle québécois, celui de l'Alberta, lequel est le plus intéressant? Mais elle dit, celui qu'on a ici en Alberta à 100 000 à l'heure. Donc elle dit, si je voulais ouvrir une boutique de vin au Québec, comme elle est à Calgary, Elle dit, je pourrais jamais être entrepreneur au Québec. Elle dit, moi, ce qui me passionne, c'est la relation avec le client. Puis faire la même chose au Québec, il faudrait que je sois employé de la SAQ. Puis ça, ça l'intéressait moins. Donc, elle a son propre magasin de vin à Calgary. Et puis, d'ailleurs, depuis la privatisation, le nombre de commerces qui vendent de l'alcool a explosé. On est passé de 208 à 1600. Puis c'est vraiment l'effet de la concurrence puis de la spécialisation, là. Puis, ceux qui sont intéressés pourront aller voir l'article, mais on se rend compte qu'il y a plein de magasins, là. Il y a des magasins qui sont spécialisés dans les vins. Il y en a d'autres, c'est plus les whisky, les alcools spécialisés. Puis pour attirer l'effet de la concurrence, on va attirer le client. Puis dans le magasin, par exemple, de notre entrepreneur, elle va avoir des dégustations les samedis, des clubs de vin, des services personnalisés avec des employés qui connaissent très bien les produits. Donc, on voit que la concurrence, là, pour attirer les clients, ben, on leur donne ce qu'ils ont le goût d'avoir, puis on fait la promotion de nos produits.
On travaille fort.
Exactement. On pourrait voir au Québec, on pourrait avoir des magasins spécialisés dans les alcools locaux, par exemple, puis mousser les produits locaux. Donc, ça pourrait être, il y a des amateurs de whisky. Comme il y a un peu, là, on donne l'exemple à Calgary, là, on aurait un commerce où on aurait 200, 300 sortes de whisky, là, puis on aurait des vendeurs vraiment qui connaissent ça. Et tout pas que les vendeurs de la SAQ connaissent pas ça, là, moi, je suis toujours impressionné par leur niveau de connaissance.
Ah, il y en a des très bons conseillers.
C'est ça, certainement. Par rapport à moi, quand j'ai travaillé, on ne connaissait rien, on n'avait aucune formation, on racontait à peu près n'importe quoi à l'époque aux clients parce qu'on ne connaissait pas ça. Mais maintenant, ils sont très bons. Mais quand même, il y a quand même des vertus, à la concurrence. Donc,
très intéressant.
Je pense à avoir. Oui, c'est intéressant de suivre notamment cette série d'articles-là dans la presse cette semaine.
Merci beaucoup, Michel. Bonne journée, puis à la prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.